Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Ravie de vous retrouver dans votre émission Bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à midi. Et aujourd'hui, on vous propose une thématique bien-être estivale, mais pas pour nous, pour nos compagnons préférés. On va donc se poser cette question, comment prendre soin de nos animaux domestiques pendant l'été?
Eh oui, ils nous tiennent compagnie à la maison toute l'année, mais quand les vacances arrivent, une question se pose, que faire de nos animaux pendant l'été pour qu'ils soient eux aussi le mieux possible? Garde à domicile, famille d'accueil, pet sitter ou alors carrément en vadrouille avec nous. On verra les différentes solutions à notre disposition selon notre destination et puis le caractère et les besoins de notre animal. Pour nous guider sur tous ces points, la vétérinaire Hélène Gâteau nous accompagnera aujourd'hui.
Et ensuite à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec nos chroniqueurs. Et aujourd'hui, on va commencer avec Maud Ravier, notre spécialiste beauté. Elle va nous donner ses astuces pour avoir une peau bronzée et hydratée cet été. Et puis on va terminer l'émission avec la chronique de Cécile Coumeau. Aujourd'hui, elle a testé pour nous un cours de pêche. Et oui, c'est de plus en plus à la mode et c'est même une activité qui plaît beaucoup aux enfants, figurez-vous. Ils lâchent les écrans, se reconnectent à la nature et potentiellement nous apportent le dîner, quoi. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
Europe 1.
Vous écoutez, bien fait pour vous sur Europe 1, très heureuse de vous accompagner en direct jusqu'à midi. Comment prendre soin de nos animaux en été, qu'on décide de les faire garder ou alors de les embarquer en vacances avec nous? On va vous conseiller dans toutes les situations, mais on va d'abord écouter ce que propose Clément Lanoux sur ce sujet. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Déjà, alors faut-il partir avec son animal de compagnie en vacances? Déjà, tout dépend de l'animal. Je veux dire, si c'est un cheval, je vous dirais oui, ça peut économiser un trajet. Si c'est un poisson rouge, la mer, je ne suis pas sûr qu'il kiffe ou que vous le retrouviez. Je vais prendre un exemple très concret qui est le mien, puisque j'ai un chat. J'ai la chance d'être propriétaire d'un chat. Enfin bon, propriétaire, je ne sais pas si ça se dit. C'est plutôt moi qui lui appartiens, vu que c'est lui qui décide un peu tout chez moi. C'est un peu comme un coloc, hein, mais un coloc qui me marche sur le visage et me lèche les pieds. Ça, je ne connaissais pas. Enfin, il y a bien eu Baptiste, mais c'était il y a 5 ans, bref. Non, aujourd'hui, je suis confronté à quelques jours des vacances à un vrai dilemme. Qu'est-ce que je fais de mon chat pendant les vacances? Et j'ai cherché, il existe 4 possibilités. Ah. Je vais juste en parler avec vous. Il n'y a pas de chronique aujourd'hui, puis vous allez me dire celle que je dois choisir. D'accord, j'espère, okay. En tout cas, vous avez une heure jusqu'à la fin de l'émission pour me convaincre. Première option, comme les enfants, c'est chez la belle-mère. Ça, c'est pas mal. Il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Le seul bémol, c'est qu'il rentre avec 8 kilos et surexcité. Normalement.
Okay. Ouais.
Le deuxième, puisque le chat est autonome, c'est comme ça qu'on me l'a vendu quand j'ai voulu un chat. Ma chérie m'a dit non, mais le chat, c'est génial. Autant le chien, il faut le sortir tout le temps.
Le chat, il fait sa vie.
Autonome.
Quoi.
Donc, si vraiment il est autonome, moi, je lui laisse les clés, un peu d'argent, le numéro du voisin, et il se débrouille. Voilà, il m'appelle s'il y a un problème. Il vit ses vacances, je vis les miennes. On se retrouve après, on est très contents. Voilà. Après, il y a troisième option, c'est laisser ma maison à un pote pour qu'il s'occupe de lui. Mais ça veut dire laisser mon pote chez moi, laisser mon pote dormir chez moi, laisser mon pote aller dans mon lit, faire ce qu'il veut dans mon lit, avec qui il veut. En plus, s'il fout dans le deuxième tiroir, il risque de trouver... Enfin bref.
Non,
bref,
on ne va pas savoir.
Et puis, quatrième option, alors je l'ai testé l'année dernière, je ne connaissais pas la minouterie.
Minouterie. C'est quoi ça?
Oui, c'est mignon, on dirait un club échangiste, Mélanie.
J'allais dire, c'est pas un truc cochon, j'espère, quand même.
Pas du tout, pas du tout. C'est un petit hôtel pour chats, il en existe pas mal, où ils ont leur propre chambre. Alors, c'est un peu cher, mais on peut les laisser, on s'occupe bien d'eux, ils ont chacun leur chambre. C'est un petit peu la colo des chats, voilà, sauf qu'ils vous écrivent pas de carte postale et il n'y a pas de retour sur investissement, mais au moins, il est en sécurité et ça évite de les abandonner, comme le font beaucoup de gens chaque été. Donc voilà, j'attends cette émission pour trancher 1, 2, 3 ou 4, je sais pas ce que je vais faire. J'aime bien l'idée de lui laisser les clés, un peu d'argent et voir si mon chat est plus malin que les autres.
Évidemment. Merci Clément Lanoux. Bon allez, on part en vacances maintenant avec nos amis à quatre pattes, ou en tout cas, on fait en sorte qu'ils se portent au mieux pendant notre absence en été. Et on va faire le point avec notre spécialiste. Bonjour Hélène Gâteau.
Bonjour, bonjour à toutes les deux.
Vous êtes médecin vétérinaire et alors les vacances ont commencé pour certains, bande de vénards, et on s'imagine souvent que les gens avec des animaux sont très limités finalement pour partir en vacances. Mais je crois qu'avec un minimum d'organisation, c'est possible en fait de partir. Partir où on veut ou pas, Hélène?
Alors, il faut de l'organisation et de l'anticipation pour pouvoir trouver la meilleure solution qui soit adaptée à son animal. Finalement, Clément, dans ces quatre options, il est assez dans le vrai, hein, dans la diversité des possibilités qui existent quand on a un chat. Et puis quand on a un chien, eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est est-ce qu'on le fait garder? Est-ce qu'on l'emmène avec soi? Est-ce qu'on le met en pension? Voilà, toutes ces options sont à étudier en fonction du caractère caractère de son animal en fonction du lieu de vacances où l'on va, en fonction de ses moyens aussi. Donc voilà, c'est... Mais il faut anticiper.
Et je dirais même que c'est quelque chose qu'il faut anticiper avant même d'adopter un animal.
Bien vu,
je pense que certains l'oublient et on le sait, chaque été on en entend parler. Il y a encore vraiment beaucoup d'abandons d'animaux en été, vraiment là en 2022, c'est toujours le cas.
Oui, c'est toujours le cas et malheureusement la France est un peu le mauvais élève en Europe concernant le nombre d'abandons qui est toujours constant, voire même croissant chaque année. On estime à 100 000 animaux abandonnés chaque année et ce sont des estimations qui sont très probablement fausses, elles devraient être revues à la hausse. En fait, il n'y a pas d'organisme qui comptabilise véritablement.
Comment on explique que les Français soient si mauvais élèves? Qu'est-ce qu'on fait de mal que les autres?
Le confinement, apparemment, qui a fait beaucoup de mal aux animaux.
Oui, parce que les gens se sont rués dans les élevages, dans les animaleries ou même dans les refuges pour adopter des animaux en disant on est souvent à la maison, je peux prendre un animal.
Mais comme un caprice un peu.
Comme un caprice. Et puis au moment où on n'est plus à la maison, au moment où on part en vacances, on a cet animal auquel on est attaché, mais qui devient une contrainte. Donc effectivement, quand on est un futur propriétaire d'animal, il faut envisager les solutions de garde parce qu'à un moment, ça va se poser comme question, donc il faut l'anticiper.
Et dites-moi, Hélène, aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de chats et de chiens. Est-ce que les chiens sont de meilleurs candidats pour partir en vacances avec toute la famille? Est-ce que ça les perturbe peut-être moins que les chats?
Les chiens, on a un petit peu l'habitude de les trimballer partout, surtout les chiens qui vivent en milieu urbain, qu'on emmène se promener au bois. C'est un petit peu différent pour les chiens qui vivent à la campagne, qui ont leur jardin et qui sortent rarement de leur jardin, malheureusement pour eux. Pour cela, c'est un petit peu plus difficile parfois d'être délocalisé, on va dire. Mais c'est vrai qu'un chien, c'est un animal extrêmement social. C'est un animal qui a besoin de notre présence, qui vit pour nous, à travers nous. Et dans ces cas-là, oui, bien évidemment, c'est il fastoche. Part avec nous et on ne le laisse pas tout seul à la maison.
Et les chats, c'est plus compliqué?
Eh bien oui, un chat, c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment deux grands profils de chats. Il va y avoir le chat extrêmement attaché à son territoire, qui peut être facilement stressé si quelque chose est modifié dans l'organisation de son milieu de vie. Et puis il y a, j'aime pas trop cette appellation-là, mais ça va parler à tout le monde, mais j'aime pas ça. C'est le chat-chien. Mmh. Alors, je dis que j'aime pas parce que pour moi, un chat ne sera jamais un chien, donc il faut arrêter de dire qu'un chat est un chien. Mais je sais que beaucoup de monde utilise cette expression-là, donc je me permets de l'utiliser aujourd'hui.
Et c'est quoi,
les chats-chiens, ce sont les chats qui sont plus attachés à leur humain, finalement, que à leur territoire. Et ces chats-là, potentiellement, pourront plus facilement être délocalisés ou déterritorialisés et partir en vacances avec nous, ou du moins aller dans une pension féline, par exemple.
Et c'est quoi qui fait cette particularité féline? Je ne veux pas parler donc forcément du chat-chien, mais l'autre partie des chats. C'est parce qu'ils aiment leur routine. C'est très important, la routine, chez cet animal-là?
Alors, c'est la routine et c'est surtout le territoire, l'organisation du territoire. Un chat, quand il vit dans un appartement ou dans une maison, il va passer son temps à baliser sa maison, à faire ses griffes, mais pas uniquement, à frotter au niveau des joues, là où il a des glandes de sébum, des glandes sébacées qui vont laisser des odeurs. Donc en fait, il balise son territoire comme ça. Son territoire est organisé avec un lieu où il dort, un lieu où il mange, un lieu où il se repose, un lieu où il se cache. Et à partir du moment où on le change d'environnement de vie, il va falloir qu'il recrée tous ces lieux-là, en fait, finalement. Donc ça va peut-être lui prendre du temps, ça va le stresser. Ce pourquoi, c'est pas forcément toujours facile de changer un chat de son milieu de vie.
Et heureusement, on va voir avec vous qu'il y a d'autres possibilités.
Bien sûr.
Notamment pour faire garder ses chats. Mais autre question, si on les a habitués petits, depuis tout petit, à partir avec nous, les chats, est-ce que ça facilite quand même les choses ou
alors,
ça change pas grand-chose?
Oui, ça peut faciliter si c'est un chat qui, justement, est plus attaché à son humain que à son territoire. Donc vraiment, c'est extrêmement chat dépendant. Et ça, il faut que tous les propriétaires l'aient en tête. Il y a des chats qui vont facilement vivre le fait de sortir de leur milieu de vie et d'autres pour lesquels ça va être une expérience extrêmement traumatisante. Et donc, dans ces cas-là, il faut trouver une solution où on les laisse à la maison.
Mais qu'est-ce qu'il y a à jouer pour élever un chat-chien? Moi, j'aurais bien aimé avoir un comme ça parce que ce n'est pas le cas. Mais...
Alors, malheureusement, pour le comportement et le caractère du chat, oui, il y a quand même un rôle à jouer.
Et c'est comme pour les enfants, quoi. Ils sont comme ils sont.
Il y a une part de génétique, effectivement, qui va être compliquée à avoir un effet dessus, en tout cas. Donc, voilà, c'est un petit peu la loterie, parfois, quand on prend un chat. Il y a certaines races qui sont plus adaptables que d'autres, tout de même.
Vous parliez tout à l'heure de traumatisme potentiel, mais qu'est-ce qu'on risque si on fait le mauvais choix et qu'on délocalise, donc qu'on déracine son chat?
Alors, un chat qui ne va pas aimer changer de territoire, il va se mettre à stresser, il va se mettre à ne plus manger, à devenir malpropre. La malpropreté, l'anxiété, le stress, c'est la première raison de la malpropreté bébé hein, chez le chat. Donc il va se mettre à faire pipi partout, il va plus utiliser sa litière, ou alors il peut faire de la boulimie, ou alors il peut se mettre à se toiletter de façon excessive, à s'arracher les poils, ou alors il ne se toilette plus du tout. Voilà un petit peu toute la palette des symptômes de stress chez le chat.
On va essayer d'éviter ça aujourd'hui. Merci beaucoup Hélène, vous restez avec nous à suivre. On va continuer à vous donner nos meilleurs conseils pour prendre soin de vos animaux de compagnie durant l'été, au-delà des modes de garde ou des conseils pour les embarquer avec nous. On verra aussi qu'il peut y avoir des soins particuliers à leur prodiguer quand les températures grimpent. On vous explique tout ça dans quelques minutes. En attendant, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre, c'est tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. Alors comment prendre soin de nos animaux domestiques durant l'été? Eh bien on fait le point grâce à notre experte en studio avec nous, c'est Hélène Gâteau, médecin vétérinaire. Et on disait tout à l'heure, hein, avec vous Hélène, pour les chats on préfère souvent les laisser à la maison avec leurs petites habitudes, pour ceux, on a bien compris, qui sont très attachés à leur territoire. Donc je sais pas, on demande à un voisin, un ami, un pet sitter de passer une fois par jour, est-ce que ça peut suffire?
Alors Ça va dépendre du chat, encore une fois. Si c'est un chat qui a besoin de beaucoup de contacts, dans ces cas-là, il vaut mieux demander peut-être, je sais pas, à la fille d'un voisin, de lui donner un petit billet, puis qu'elle vienne regarder la télé à la maison, puis en même temps faire des câlins à son chat. Il faut quand même un minimum de présence, ça c'est sûr, pour un chat. On peut pas le laisser pendant 10 jours avec juste quelqu'un qui vient remplir
la gamelle. Oui, c'est
remplir
triste,
la gamelle,
ouais.
C'est extrêmement triste, et puis ça peut être très déprimant pour l'animal, surtout que faut imaginer souvent le contexte. Le contexte, c'est que les volets sont fermés parce qu'on se dit, on va pas lui, il va faire trop chaud, donc on ferme les volets. Donc le chat, il a plus aucune stimulation pendant
du
jour.
On est d'accord, on laisse pas dans le noir.
Donc
oui,
il faut laisser du jour. Et puis même pas hésiter à laisser peut-être une radio dans une pièce, des choses comme ça. Il faut qu'il y ait de la vie quand même. Il faut que son milieu puisse être encore enrichi au chat, sinon ça va être extrêmement triste.
Il y a des chats qui tiennent aujourd'hui plus que ça, justement, parce qu'ils ont par exemple des distributeurs de croquettes, etc. Oui. Là, j'ai pas 3 jours sans contact, ça peut être difficile, non? Et puis il peut déprimer. Un chat tout seul à la maison?
Oui, un chat peut déprimer quand il est tout seul à la maison. Après, si c'est 3 jours, une fois tous les 6 mois...
Moi, ça m'arrive un week-end de temps en temps de laisser le week-end.
Faut pas paniquer non plus, ça peut arriver. Et si vous avez un distributeur de croquettes, effectivement, qui est réglé comme il faut, ça peut passer. Mais on évite de laisser un chat plus de 48 heures ou 72 heures tout seul, de façon régulière, ça c'est sûr.
Et est-ce que pour un chat, la garde partagée, entre guillemets, c'est-à-dire, le changer de domicile pour le mettre avec un autre chat qui, lui, est gardé, est-ce que ça, c'est une possibilité?
Alors, c'est ce que j'ai prévu, j'avoue, on fait ouais. Vous savez comment en crèche, on va faire l'adaptation demain. D'ailleurs, on l'amène pour 24 heures pour voir s'ils s'entendent bien.
Alors les chats, ça ne s'entend pas toujours des chats. Ce qui est important, c'est que chaque chat puisse avoir, je parlais d'espace de vie tout à l'heure, chaque chat puisse avoir ses espaces de vie. C'est-à-dire que les gamelles pour manger, les litières pour aller faire ses besoins, elles doivent être à des endroits différents. Il faut que l'appartement, je ne sais pas où sera votre chat Mélanie, mais il faut que l'appartement puisse être assez grand pour que les chats puissent investir leur propre espace et que leur territoire ne se superpose pas.
Donc pas les deux litières à côté, pas les deux gamelles à côté, surtout pas.
Ça c'est impératif. Et puis si c'est pas pendant très longtemps, ça pourrait aller. Mais parfois, quand deux chats vivent ensemble, c'est pour ça que quand des gens ont un chat à la maison, ils disent « Ah, je vais prendre un deuxième chat pour qu'il s'ennuie pas », etc. Il y a des moments, la cohabitation, elle ne se passe pas bien et elle ne se passera jamais bien. Parce qu'il y en a un qui va faire les misères à l'autre pendant toute sa vie. Donc là,
je vais vous dire, la garde partagée entre chats, ça va être plus contraignant, entre guillemets, s'ils s'entendent pas, pour celui qui vient squatter plutôt que chez celui qui est chez lui.
Oui, mais pas forcément, parce que peut-être que celui qui arrive, c'est peut-être un caïd et puis il va tout retourner à la maison. Et puis, donc ça dépend. Ils ont chacun leur individualité quand même, les chats. Hein.
Et est-ce que c'est possible, Hélène, pour les chiens de les laisser chez nous avec quelqu'un de rémunéré ou non, d'ailleurs, qui passe, le sortir une heure par jour, le nourrir? Est-ce qu'ils ont davantage besoin de présence humaine et de se dépenser?
Ah oui, non, mais là, on n'envisage pas cette solution-là. On a un chien, on a quelqu'un qui le garde, qui le sort 3 fois par jour, qui le nourrit 2 fois par jour, qui joue avec lui, qui vérifie aussi. L'importance aussi d'avoir quelqu'un qui vient régulièrement voir son animal, son chat, ou qui s'occupe de son chien 24-24, c'est aussi de pouvoir voir s'il y a le moindre pépin de santé quand même.
Parce qu'on n'a pas parlé de ça jusque-là.
Mais à un moment.
Si on s'absente 3 semaines et qu'il y a juste des gens qui passent, qui survolent.
Voilà, c'est un peu compliqué. Donc non, un chien, on n'envisage pas juste quelqu'un qui vient une heure par jour. Ça, c'est hors de question. Je veux absolument qu'aucun auditeur qui nous écoute aujourd'hui ne fasse
ça. Interdit. Alors justement, on va mettre en avant une initiative de cet ordre à destination des chiens. Pour en parler, Sylvette Préau, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Sylvette.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes garde-chien bénévole pour le site empruntemontoutou.com. Vous, en fait, vous adorez les chiens, mais vous ne pouvez pas en avoir chez vous, donc vous vous occupez de ceux des autres, hein, c'est ça ?
Absolument, ouais. C'est une communauté collaborative pour tous ceux qui adorent les toutous. Une espèce de dog dating, en fait, un rendez-vous avec un chien. C'est pas un site de rencontre, mais c'est une promenade à une manière.
Et donc, pendant les vacances, vous passez tous les jours, c'est ça, pour voir si le chien va bien ou alors vous le gardez chez vous ? Comment ça se passe de façon pratique ?
Non, moi je suis plutôt dans le système où j'ai besoin de promener un chien souvent, en fonction de mes envies, de mes habitudes, de ma localité, en fait. Et donc, je fais des critères de recherche pour trouver un chien. Accepter ou pas le nombre d'heures avec le propriétaire. Et puis, on fait une balade en fonction des habitudes ou du changement du chien ou des besoins des propriétaires, etc.
Donc, vous ne les gardez pas, par exemple, pendant une semaine si les gens partent en vacances ? C'est le genre de choses que vous ne faites pas, vous, peut-être ?
Je l'ai fait une fois exceptionnellement pour dépanner, mais mon chat n'a pas apprécié.
D'accord. Mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres bénévoles qui le font. Qu'est-ce que vous faites ? Vous envoyez des photos, des vidéos ? Alors vous, les gens de cette plateforme, mais pour rassurer les maîtres pendant leur absence. Les retours des propriétaires, d'ailleurs, ils sont contents en général de ce service ?
Assez, oui. En fait, quand on aime les chiens, que ce soit propriétaire ou promeneur bénévole, franchement, ça se passe super bien.
Et comment ça se passe le premier contact quand vous prenez en charge un chien ? Je sais pas, vous le gardez pas tout de suite, j'imagine, sans l'avoir rencontré, parce que c'est peut-être important de voir si le courant passe bien entre vous deux, non ?
Eh bien, pas du tout, en fait. Ça se fait instinctivement. Je prends rendez-vous sur le site, la messagerie est instantanée. Mmh. On se met d'accord sur un point de rencontre, une heure de rencontre, un délai de promenade éventuellement ou d'après-midi. Et puis voilà, ça passe tout seul.
Merci beaucoup Sylvette d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle donc que sur ce site, effectivement, empruntemontoutou.com, ce genre de service de promenade est totalement gratuit. Alors Hélène Gâteau, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce genre d'initiative ?
Alors je veux juste préciser qu'Empruntemontoutou, c'est pas de la garde de vacances. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont au boulot, sont à la maison, etc. Et ce sont des gens, des bénévoles ou des gens comme Sylvette, qui viennent prendre le chien pendant une heure. Mais c'est pas pendant les vacances des propriétaires.
Donc c'est plus un service pendant l'année. Quoi,
c'est plus un service pendant l'année, venir en soutien d'un garde de chien à qui on a confié son animal pendant les vacances.
Mais c'est pas quelqu'un
c'est pas quelqu'un qui va juste promener le chien alors que les gens sont partis pendant 15 jours.
Et dites-moi Hélène, pour les autres animaux, je sais pas, comme les lapins, les hamsters ou les cochons d'Inde, qu'est-ce qu'on fait ? On les lâche dans la cage, on donne la cage à quelqu'un ou... Le hamster, quand même, on peut peut-être l'amener.
Ça se trimballe,
non
le hamster,
oui, ouais. Ça peut se trimballer. S'il a une cage, un endroit dans lequel il vit, bien sûr, vous pouvez l'emmener avec vous et ça, il n'y a pas de souci.
Un lapin, c'est déjà un peu plus contraignant, c'est un peu plus gros.
Un lapin, c'est un peu plus contraignant parce que si vous êtes un bon propriétaire de lapin, vous avez effectivement une grande cage pour que votre lapin soit heureux et puis et détendu. Mais sinon, effectivement, oui, c'est plus facile, je pense, à faire garder un lapin hamster qu'un chat ou un chien.
Non, on prend la cage du lapin et on ne prend pas les enfants cette année. Il y a aussi les hôtels à chats, enfin les hôtels pour chats pour les pensions félines ou les chenilles. Ça peut être une solution, j'imagine. Vous en pensez quoi ? Ça coûte cher, je crois, ce genre de service.
Alors, il y a plusieurs types déjà de services. Il y a des pensions dans lesquelles les animaux, les chiens ou les chats sont dans des boxes individuelles ou alors à deux, par exemple. Il y a également d'autres types de services où, je pense à une pension qui s'appelle Alpha Dogs House, où c'est sans cage ni grillage, ni pour les chiens ni pour les chats. Alors, chiens et chats ne sont pas mélangés, mais en gros les chiens vivent en meute, tous ensemble,
et ça se passe bien, ça.
Et ça se passe super bien parce que tout est bien organisé pour que tout se passe bien. Et les chats, de la même façon, ils vivent dans une grande longère avec un accès à l'extérieur. Ils sont
et puis ils sont surveillés, j'imagine, ensemble. Parce que s'il y a baston entre deux chats, on les sépare.
Enfin, voilà. Et puis surtout, c'est assez grand pour que, encore une fois, chaque chat puisse avoir son endroit pour se cacher, son endroit pour se percher. Donc c'est important, tout est bien réglé dans ces cas-là. Oui.
Mais est-ce qu'ils aiment, comme nous, changer d'air, les chats et les chiens, par exemple aller à la campagne ? Est-ce que ça leur fait le même effet que nous ?
Alors, je pense que les chiens, oui. Les chiens, aller découvrir un chien qui a juste son pâté de maison ou son jardin, sincèrement, un moment, en termes d'enrichissement, de stimuli olfactifs, visuels ou autres, ça devient assez pauvre. Donc, un chien qu'on emmène à la campagne, avec qui on va faire des balades, avec qui on va faire de la randonnée et qu'on va amener sur les bords de plage, mon Dieu, mais il va être heureux, ce chien. Donc,
le chat,
sûr.
Lui,
le chat, un chat, encore une fois, ça dépend, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend du caractère du chat. Il y a certains chats qui vont accepter d'être déterritorialisés facilement. Et dans ces cas-là, si vous avez une maison secondaire, vous pouvez l'emmener. Je conseille toujours de laisser quand même 48-72 heures le chat
à l'intérieur,
ouais, pour qu'il prenne ses marques. Et puis ensuite, vous pouvez
ouvrir.
Ouvrir. C'est très très rare, hein, le chat qui se barre loin de vous et puis que vous ne revoyez jamais quand même. Ils sont un minimum attachés. Et puis sinon, vous avez toujours la possibilité aussi d'habituer votre chat à avoir un harnais. C'est une habituation qui doit être progressive.
Moi, elle n'a pas si aimé avez... du tout la mienne. J'ai essayé l'année dernière, ça ne marchait
pas. Toujours, c'est un apprentissage qui prend un petit peu de temps pour ne pas stresser l'animal. Et puis, si vous avez un petit terrain dans votre maison de location, vous pouvez avoir le harnais, une longe de 15-20 mètres. Et puis, votre chat, il se débrouille un petit peu
comme
ça.
On a essayé,
puis...
mais il est resté sous le siège, sous mon siège tout le temps.
Et bien, alors, votre chat, Mélanie, il n'est pas...
C'est pas un chat chien.
C'est pas un chat chien et c'est un chat qui préférera son territoire à vous.
Évidemment. Et pas forcément la coloc.
C'est ça. On verra.
Merci, Hélène Gâteau. Bien fait pour vous. Se poursuit dans quelques minutes. On va rentrer un peu plus dans le détail technique quand on décide pour le coup d'emmener nos animaux en vacances avec nous. Quels sont les moyens de transport à privilégier? Faut-il leur donner des médicaments pour les tranquilliser durant le voyage? On va aborder ces questions et bien d'autres dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, on est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors ce matin, on vous conseille en ce qui concerne vos animaux durant l'été. Comment les chouchouter? On en parle en détail avec la vétérinaire Hélène Gâteau. Alors Hélène, on va passer à présent aux moyens de transport, quand on décide de les trimballer avec nous, nos animaux. Quelle est la meilleure façon de voyager? Alors avec un chat, j'imagine qu'il faut systématiquement une cage, que ce soit en voiture, en train, parce qu'on avait testé, nous, de se dire on la laisse, le chat se balader dans la voiture, mais en fait elle était stressée, c'était trop compliqué. Il faut toujours une cage.
Le chat, il faut sa caisse de transport. Mais attention, parce que si vous n'utilisez la caisse de transport que pour aller chez le véto pour qu'il se prenne sa petite piqûre vaccinale chaque année, autant vous dire que quand il va voir la caisse de transport sortie pour aller en vacances, il va se casser. Donc, la caisse de transport, il faut absolument que ce soit un endroit dont le chat est déjà habitué. Donc,
on la laisse un peu ouvert quelques jours avant.
La caisse de transport, il faudrait qu'elle fasse partie du quotidien du chat, en bas d'un placard dans lequel il a le droit d'aller.
Pour se cacher,
effectivement. Ça doit être un lieu de vie du chat. Et dans ces cas-là, un, ça sera facile de l'y mettre pour l'y transporter. Et deux, quand il sera dans la voiture ou dans votre lieu de vacances, il se sentira bien dans sa caisse de transport.
Et Hélène, pour les chiens, juste une laisse et un harnais, ça suffit pour le train ou la voiture ou carrément, il faut mettre la muselière?
Alors, pour les voyages en train, pardon, la muselière, elle est obligatoire pour gros chiens, effectivement. Donc, ayez toujours une petite muselière, même si vous ne la mettez pas. Vous l'accrochez à son collier et puis si on vous demande, au moins vous l'avez, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, bravo à la SNCF qui a, depuis le 21 juin dernier, a enfin modifié les prix des billets de train pour les chiens.
C'était extrêmement cher.
C'était 7 euros pour les petits chiens, mais dès lors qu'ils dépassaient 10 kilos et qu'on ne pouvait plus les mettre dans un contenant, c'était un demi-billet de seconde classe. Parfois le chien payait plus cher que le propriétaire. Donc aujourd'hui, c'est 7 euros pour tous les chiens. Franchement, c'est une super initiative, donc autant le souligner.
Oui, quand il y en a des bonnes,
il faut le dire aussi, exactement.
Mais si on part en bagnole,
si on part en voiture, attention au mal des transports.
Ils sont souvent malades.
Ça peut arriver chez les chiens. Surtout pour les chiens de grande taille, qui ont moins souvent l'habitude d'être emmenés avec nous un peu partout, et qui sont un peu plus confinés dans l'espace restreint de l'habitacle de la voiture. Donc pour limiter les dégâts du mal des transports, déjà mettez votre chien à jeun, la veille au soir, 20h, ça évitera les vomitos conséquents. Faites-lui faire une bonne balade avant de partir. Et puis ensuite, soit il y a des comprimés, des compléments alimentaires à base de valériane ou à base de protéines de lait maternel qui vont venir calmer l'animal. On commence à en donner 2-3 jours avant le départ.
C'est pour les chiens et les chats, ce genre de choses.
Pour les chiens et les chats, éviter le stress. Si vraiment vous avez un animal qui souffre, qui est très très malheureux en transport, qui vomit, qui gémit, qui en tremblotant, etc., il y a des comprimés, des traitements médicaux que votre vétérinaire peut vous prescrire en fonction du poids et de l'âge de l'animal.
Alors, nous sommes en ligne avec Justine WDM, c'est votre pseudo. Vous avez fait le choix justement d'amener vos animaux en vacances. Bonjour Justine.
Bonjour à tous.
Alors Justine, on peut suivre vos aventures sur Instagram avec votre chien Montana et vos chats Léon et Marcel. Vous avez depuis toujours décidé de partir avec vos bêtes, je crois. C'est pas trop la pagaille de faire cohabiter deux chats, un chien, tout ça dans un van en plus.
J'avoue que c'est une organisation, surtout avec deux chats...
et un chien et un couple. La première contrainte, je ne vais pas vous mentir, c'est les poils et la litière. Mais à côté de ça, c'est pas du tout contraignant quand on connaît la vie avec ces animaux.
Il y a un très gros chat, je ne sais pas si c'est pas un Maine Coon, et puis il y a un gros chien aussi. C'est quoi la race de votre chien ?
C'est un bouvier bernois.
Ah donc, c'est quand même un gros chien.
C'est costaud. Hein. Mais comment vous faites ? Parce qu'il y a quand même des lieux qui n'acceptent pas les animaux. Je pense à certains hôtels, aux restaurants. Comment vous vous organisez, vous, dans ces cas-là ?
Alors, nous, c'est pour ça qu'on a choisi le van. Déjà, on ne va plus à l'hôtel. Comme ça, on n'a plus à chercher les hôtels qui acceptent les animaux, même si maintenant, il y en a de plus en plus. Hein. C'est quand même assez facile à trouver sur Internet.
Et pour les activités en extérieur, parce que oui, excusez-moi, le restaurant, vous faites comment au restaurant ?
Le restaurant, en général, on appelle avant pour savoir s'ils acceptent bien les animaux. Mmh. Et comme on a un gros chien, on voudrait être surtout bien placé pour ne pas embêter la clientèle ni le personnel.
Oui.
Comme ça, ils nous placent dans un endroit stratégique et on n'embête personne.
Donc, comme le disait Hélène Gâteau, effectivement, il s'agit avant tout d'anticiper tout ça. Comment vous faites pour les activités en extérieur ? Parce qu'il y a quand même aussi des parcs naturels et certaines plages qui sont interdits aux animaux domestiques.
Tout à fait. Là aussi, c'est toute une organisation. Avant de partir, on planifie notre itinéraire et je m'assure qu'on puisse randonner dans des parcs où les animaux sont acceptés. Il y en a beaucoup en France. Hein. Il y a beaucoup de bels endroits où on peut randonner avec ces animaux. Et puis, pour les plages, pareil, je regarde sur Internet si on peut y aller avant. Après, nous, avec notre... Bouvier bernois, on ne va pas trop sur la plage ou alors en hors saison parce que sinon il fait beaucoup trop chaud.
Eh bien, merci beaucoup Justine d'avoir répondu à nos questions. Je signale votre livre sur ce sujet, Un van, un chien, deux chats, en route aux éditions Larousse. Alors Hélène Gâteau, on a parlé de la voiture, on a parlé du train. Qu'en est-il de l'avion ? Comment on peut faire voyager nos animaux ? C'est forcément dans les grosses caisses qui vont en soute ou parfois c'est possible en cabine ?
Là, il faut se renseigner auprès de la compagnie aérienne parce que chaque compagnie a sa propre réglementation concernant le transport des animaux de compagnie. Il y a certaines compagnies qui refusent, par exemple, de prendre tous les chiens brachycéphales ou les chats brachycéphales, vous savez, les animaux à la face écrasée, qu'ils ont des difficultés un peu plus, on le sait, à respirer. Et il y a déjà eu des cas de chiens qui n'ont pas passé le voyage parce qu'ils étaient trop stressés, etc. Donc, ils refusent de porter cette responsabilité-là. Donc là, j'ai pas de généralité à dire. C'est compagnie par compagnie, mais anticipée parce que souvent, dans chaque vol, il y a un nombre de places restreint, que ce soit à bord ou que ce soit en soute pour les animaux qui sont dans des caisses de transport adaptées.
À quoi il faut penser d'un point de vue médical quand on amène son chat ou son chien en vacances ? Par exemple, si c'est un chat d'appartement et qu'il va éventuellement sortir, j'imagine qu'il y a peut-être des vaccins de rappel à faire. C'est mieux d'aller faire une petite visite chez le véto avant de partir ?
Oui, si vous changez effectivement de milieu de vie de votre animal, il vaut mieux aller voir votre vétérinaire pour être sûr qu'il y a les vaccins qui sont à jour, les traitements antiparasitaires externes et internes qui sont à jour. Par exemple, dans le sud de la France, on a une petite mouche qui pique, qui s'appelle le phlébotome, et qui transmet une maladie aux chiens, la leishmaniose, qui est une maladie chronique et qui ne guérit jamais. Mais en revanche, il y a un traitement antiparasitaire qui permet de protéger son animal contre ces piqûres-là. Mais autant le savoir, donc n'hésitez pas à checker avec votre vétérinaire que votre chien ou votre chat ne risque rien là où vous allez aller.
J'ai vu qu'il y avait de la crème solaire pour animaux. C'est vraiment adapté parce que, je sais pas, il y a des animaux qui sont pas...
Il y a des poils pourtant.
Alors, oui, c'est bizarre.
Il y a les chiens et les chats ont des poils, mais il y a certaines races de chiens qui ont très peu de poils à certains endroits. Je pense par exemple au boule terrier. Le boule terrier, il a très peu de poils, il a peau très rose, il a les poils très blancs et sur le chanfrein, sur le museau, il peut attraper des coups de soleil. Mais sincèrement, quand on a un animal, on évite de le laisser en plein soleil.
Oui, et surtout pas dans la voiture.
Et surtout pas dans la voiture, bien sûr.
Vous êtes obsédé par la bagnole.
Donc, ces histoires de crème solaire, oui, pourquoi pas si par exemple vous partez en randonnée avec un chien qui aurait ce type de pelage un peu sensible au soleil et que vous n'allez pas pouvoir le mettre à l'ombre en permanence, pourquoi pas ?
Une dernière question, il y aura peut-être encore d'autres épisodes caniculaires. Oui. Comment on protège nos animaux de ça ? Comment on voit qu'un chien ou un chat est déshydraté, par exemple ?
Alors, on va voir surtout le coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est un animal qui ne va plus réussir à diminuer la température corporelle de son corps parce qu'il n'a pas les mêmes façons de réguler sa température que nous. Pour un chien ou un chat, il ne transpire pas, il va halter en fait, pour pouvoir évacuer la chaleur et se rafraîchir.
D'accord.
Et parfois, ce allaitement n'est plus efficace. Donc, si vous voyez un chien ou un chat qui continue d'haleter tout le temps alors qu'il est à l'ombre, alors que vous lui avez mis de l'eau, vous avez essayé de le rafraîchir, etc., les pattes, la tête, etc., c'est potentiellement qu'il est en train de faire un coup de chaleur. C'est une urgence vitale, ça peut aller extrêmement vite. Vous parliez de la voiture tout à l'heure, Julia.
On laisse en urgence chez un vétérinaire, là.
Oui,
c'est ça.
Et surtout, on ne laisse jamais un chien ou un chat, même quelques minutes dans une voiture, même à l'ombre, même fenêtre ouverte.
Jamais.
Jamais.
Très bien, je pense que le message est passé. Merci beaucoup Hélène Gâteau pour cet entretien. Grâce à vos conseils, on est paré pour dorloter nos amis les animaux pendant l'été. Et comme tout le reste de l'année d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'on retrouve tous vos bons conseils et vos décryptages sur le bien-être de nos animaux chaque semaine sur leparisien.fr.
Oui, merci encore. Alors merci Mélanie, maintenant on va passer à notre séquence tendance. Ça y est, c'est l'heure avec Maud Ravier, notre experte beauté qui va nous apprendre à prendre soin de notre peau en été pour un bronzage impeccable. Et puis on va terminer avec Cécile Coumeau qui a testé pour nous un cours de pêche, bah oui, ça s'apprend. Et en plus, ce type d'activité fait de plus en plus d'adeptes dans toutes les tranches d'âge. Même nos enfants d'ailleurs, ça détend hein, de pêcher, ça nous aide à nous reconnecter à la nature. Bref, on se retrouve dans un très court instant pour en parler. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous jusqu'à midi en direct. Et on débute tout de suite notre partie consacrée aux tendances. Je me tourne d'abord vers vous, Cécile Coumeau. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, pour votre chronique, vous avez taquiné le goujon, comme on dit.
C'est ça, le goujon, mais pas que. Hein, des perches, des gardons, des silures. Vous allez voir que même en Île-de-France, eh bien, il y a des espèces qui avaient disparu qui reviennent.
Et on les pêche.
Et on les pêche.
Merci Cécile, on a hâte de savoir si la pêche aux infos était bonne. Mais pour le moment, ce sont des conseils beauté que nous allons écouter. Ce sont ceux de Maud Ravier. Bonjour Maud.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler soleil cette saison. Hein.
Bah oui, tout à fait. Je vais vous donner des trucs et astuces. Encore, c'est mon petit, voilà, c'est ma petite spécialité pour avoir une belle peau, prendre le soleil, mais quand même garder une très belle peau.
Comment on peut se rendre compte qu'on a plus de capital soleil, justement?
Alors le capital soleil, il ne s'achète pas, il ne se régénère pas. C'est comme une cellule. Enfin, c'est malheureusement pas comme une cellule. Donc il faut faire très attention donc à vérifier sa peau. Est-ce que vous avez des petites taches blanches ou au contraire des taches brunes? Est-ce que vous avez du mal à fabriquer donc la mélanine, c'est ce qui donne la couleur? Est-ce que vous bronzez plus? Donc voilà, tout ça, ce sont des petites astuces. Est-ce que vous créez des grains de beauté qui n'étaient finalement pas là? Tout ça, ce sont des petites astuces qui nous font dire attention, attention, vous avez peut-être déjà bien entamé votre capital soleil.
Et qu'est-ce qu'on peut faire alors avant l'été, nous?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avant l'été? Ben déjà, il faut faire attention parce que tout simplement, on sait que soleil égale vieillissement de la peau. On est d'accord? Donc, une peau qui commence à vieillir, c'est une peau qui est déshydratée, une peau qui peut faire des taches d'hyperpigmentation, qui se flétrit, qui raidit, qui se ride. Ou au contraire, les peaux très épaisses, cette peau un peu... Voilà,
burinée, on dit.
Exactement, avec des rides profondes. Et celle-là, il ne faut pas se dire, parce qu'elle est mate, je ne crains rien. On fait vraiment très attention au soleil. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des stress oxydatifs et ça altère les cellules.
Mais quoi, il faut faire des soins alors en institut?
Alors tout à fait. Donc la base, j'ai envie de dire, c'est de faire des gommages. Le gommage, encore une fois, je ne cesse de le dire, mais c'est vraiment le meilleur anti-âge qui existe. C'est-à-dire que vous allez obliger les fibroblastes à fabriquer du collagène, de l'élastine et donc une grosse base de protection sous-cutanée pour éviter que les peaux ne se rident de trop.
En fait, en la gommant, en enlevant toutes ces peaux mortes qui sont à la surface de notre épiderme, on fabrique de la nouvelle peau.
Exactement.
En fait, hein, c'est ça,
voilà. On oblige la peau à se renouveler. Après, tout ce qui est pour les peaux sèches, qu'on sait que le soleil a tendance à dessécher les peaux, moi je préfère privilégier des huiles, des crèmes nourrissantes. Parce que voilà, vous allez hydrater, en plus de protéger votre peau, vous allez aussi l'hydrater. Moi, je craque assez pour l'huile Oh My Cream, qui est hyper agréable. C'est une huile végétale et surtout, elle a des filtres clean. Donc, les filtres clean, ce sont des filtres qui sont respectueux de la peau et respectueux de l'environnement.
Et on peut en mettre sur les cheveux en plus. Hein. Ça, c'est pas que la peau, hein, je crois.
Non, il faut bien protéger aussi les cheveux. On oublie trop souvent nos cheveux et quand on revient l'été...
On a de la paille sur la tête.
On a la paille sur la tête, on a la couleur qui vire et ça devient vraiment...
Je pars déjà avec de la paille avant l'été, donc il va falloir faire quelque chose, je pense. Si on est sportif, Maud, les crèmes et les huiles, c'est pas top par contre. Hein.
Eh ben non, parce qu'effectivement... si vous êtes une championne ou un champion de planche à voile et que vous mettez des corps gras sur vous, vous allez vous retrouver un peu en baleine échouée, donc ça serait très dommage. Il faut savoir, il y a trop de personnes qui ne le savent pas, qu'il existe des brumes invisibles du sportif. Ça se trouve, généralement, voilà, c'est souvent nommé comme ça, la brume du sportif.
J'en ai jamais eu, moi, Julien, et vous, de la brume du sportif?
Jamais de ma vie, je n'en ai pas besoin de parler.
Bah alors, c'est absolument génial. Et puis, pour les coquettes, vous pouvez tout à fait le mettre sur le maquillage directement. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent pas être démaquillés à la plage. Donc, sachez qu'il existe aussi des brumes à mettre sur le visage. Indice 50, toujours, c'est la base.
Mais alors, comment on fait pour se repérer parmi les milliers de crèmes solaires qui sont sur le marché? A priori, on imagine qu'on est bien protégé, mais ce n'est pas forcément le cas.
Oui, parce que voilà, l'efficacité n'est pas la seule exigence. Il faut que les formules soient vraiment adaptées à votre peau. Et on retrouve encore trop de conservateurs ou de filtres qui sont suspectés comme étant des perturbateurs endocriniens. Donc, je voulais vraiment faire un petit point là-dessus. C'est quand même important de faire attention à ce que l'on met sur la peau.
Moi, il me reste une bonne crème que j'ai depuis 3 ans dans les placards.
Ouais, vous la jetez, on est d'accord.
Est-ce que je peux l'utiliser encore?
Alors, il faut savoir que 57...
C'est la mienne, pas celle de mes enfants. Celle-là, je la change chaque année.
Oh, bah oui, quand même. Il faut savoir quand même que 57% des utilisateurs de crème solaire la réutilisent d'une année sur l'autre. Mais il faut savoir que les filtres solaires...
C'est le combo qui est à côté de vous.
Les filtres solaires, ils se dégradent très vite au contact de l'extérieur. Donc, vous avez l'impression de vous protéger, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pire, quand elle a une petite odeur suspecte, c'est qu'elle a vraiment tourné. Et là, vous pouvez vraiment... Non, c'est pas terrible.
Si elle pue, je la mets pas quand même. Mais en plus, parfois, si on l'a ouvert sur la plage, il suffit qu'il y ait des résidus de sable qui sont rentrés à l'intérieur.
Non, c'est pas
clean. Et ça devient un nid à bactéries.
Donc, chaque année, il faut renouveler ses produits.
Oui,
tout ça,
on renouvelle ses produits. C'est vrai.
Si on a un gros coup de soleil, malgré toutes ces précautions, Maud, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, j'aime beaucoup l'aloe vera.
Je confirme, c'est
évidemment.
Génial.
Évidemment, on ne cesse de le dire, c'est pas très original, je vous le conçois. Mais
moi,
c'est
je le mets au frigo.
Mais oui, mais vous pouvez aussi vous acheter une petite plante que vous amenez avec vous. Vous l'achetez tout simplement. Oui. Et en fait, vous vous retrouvez avec une gelée naturelle d'aloe vera. Vous prenez une grande branche, vous la coupez.
Vous faites ça,
vous? Et ça vous fait, bien sûr.
Ah oui?
Ah oui, j'adore parce que ça apaise tout de suite, ça a des propriétés anti-inflammatoires, ça accélère la cicatrisation, c'est antiseptique, ça calme les irritations et les démangeaisons dues au soleil. Et puis après, vous avez aussi d'autres petites astuces.
Allez, là, une dernière, surtout pour ce qui viendra à la fin de l'été, mais autant être précautionneux. Comment on garde le bronzage le plus longtemps que possible?
Alors moi, j'ai une belle réalisation à vous faire de prolongateur de bronzage. Donc, vous faites une petite mixture maison avec de l'huile de l'abricot et de l'huile végétale de buriti. Le buriti, il faut savoir que c'est un véritable concentré de caroténoïdes.
Bravo.
Ce sont des propriétés hydratantes et surtout des propriétés colorantes. Donc, vous pouvez l'utiliser en huile à mettre sur le corps. Ça va nourrir et en même temps, ça va donner un effet halé. Donc, on fait un peu attention aux habits. On ne se rhabille pas tout de suite. Mais c'est un vrai effet
prolongateur de bronzage. Et en
exactement.
Plus, tout naturel, tout fait maison. Merci Maud
pour
toutes ces astuces. Maintenant, on est bien pomponnés. Eh bien, si on allait pêcher, décidément, Cécile Coumeau, avec l'été, vous avez décidé de nous faire découvrir des activités aquatiques tendance. Alors la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'était le paddle. Aujourd'hui, c'est la pêche. C'est vraiment la mode, la pêche.
Ah ben bien plus que vous l'imaginez. Hein. Sur les pavés parisiens, vous pouvez croiser des skaters, des graffeurs, mais aussi des street fishers. Alors, ce sont des jeunes qui arpentent les bords de Seine avec leurs cannes. Et au pied de la Tour Eiffel, par exemple, ils taquinent le silure. C'est un gros poisson d'eau douce.
C'est quoi la différence avec la pêche d'antan?
Alors, quand on pratique le street fishing, les bons vieux vers, vous les remplacez par des leurres. Et évidemment, pas question de tuer les poissons. Les street fishers, ils pratiquent ce qu'on appelle le no-kill. Autrement dit, ils rejettent le poisson à l'eau, parce qu'en fait, il n'est pas question quand même de le manger pour le moment, ce qui est dans la Seine, à cause de la pollution.
J'allais vous le dire, j'avais moyen envie de toute façon.
Ça va venir peut-être, mais pour le moment, c'est pas le cas. Ensuite, évidemment, ils postent la photo sur les réseaux sociaux, tout ça. Et sinon, le retour de cette activité, c'est quand même dû au fait qu'on a besoin d'être dans la nature et surtout après les confinements qu'on a vécu, évidemment.
Et Cécile, la bonne vieille pêche au bouchon, c'est ringard alors?
Ah mais pas du tout. C'est ce qu'on appelle, alors j'ai découvert, c'est ce qu'on appelle la pêche au cou en fait. Alors en fait, le street fishing, c'est un peu la partie parisienne et immergée de l'iceberg, mais toutes les techniques de pêche, en fait, elles sont prisées et il y a pratiquement, je dirais, c'est ce qu'on m'a dit, une technique de pêche par espèce de poisson.
Donc c'est hyper technique comme activité en fait.
Ça peut l'être en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu des stages, plein de stages qui se sont créés un peu partout en France. Ça va de l'after work pour adultes au stage, évidemment, pour enfants pendant les vacances scolaires. Et c'est vrai qu'on y apprend des tas de choses. Bon, monter sa ligne, évidemment, faire la différence entre un gardon et un rotangle. Hein, moi, je sais faire. Hein.
Je ne sais pas ce que c'est seulement.
Moi non plus, je ne sais pas. Mais c'est la forme de la bouche, hein, okay. La différence.
D'accord.
On apprend à retirer aussi l'hameçon sans abîmer le poisson, à préparer l'amorce aussi. Il y a toute une technique. Il faut notamment mélanger un peu de terre du lieu de pêche pour que l'amorce soit de la même couleur que le fond de l'étang. Bon, et puis après, on apprend évidemment les différentes donc, techniques de pêche qui sont nombreuses. Alors, mardi dernier, je suis allée dans le bois de Boulogne, évidemment, sur l'étang de l'abbaye. Et là, il y avait 12 préados qui s'initiaient avec Stanislas de la Maison de la Pêche et de la Nature du 92 à la technique du feeder. Alors, je laisse Naïl vous expliquer.
On prend donc, du coup une petite cage et on la remplit d'amorce. C'est une espèce de pâte sableuse dans laquelle on va mettre de l'eau. On va la lancer plusieurs fois. Et ensuite, ça va faire un nuage qui va ramener plusieurs petits poissons, et même des fois des gros. Et ensuite, on va relancer avec de l'amorce. Sauf que cette fois, on aura un appât avec des asticots, des vers, du maïs, tout ce qui attire les poissons, quoi.
De la banane.
Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut essayer de pêcher. Alors, l'hameçon, normalement, il doit être un peu dans le nuage. Comme ça, quand les poissons vont essayer de chasser, entre parenthèses, ils vont prendre l'hameçon. Mais les poissons, on dirait qu'aujourd'hui, ils sont pas très contents.
Naïl, il a l'air quand même de s'y connaître vachement plus que nous. Hein. Cécile, la pêche, elle avait pas l'air miraculeuse ce jour-là. J'imagine qu'il faut aussi savoir choisir le bon spot.
Oui, évidemment. Et ça aussi, ils l'apprennent. Rien que là, ils sont vraiment mis à des endroits bien précis. Mais ce qui m'a frappée, en fait, c'est que pendant les 2 heures où j'étais là, les gamins, ils n'ont pas touché leur portable. Ils ont ramassé spontanément.
10-12 ans, c'est ça,
ouais,
ces enfants-là.
C'est ça, exactement. Ouais. Ils ont ramassé les papiers gras, même ceux qui étaient là
les
avant.
Les déchets dans la nature.
Ouais, spontanément. Ils ont appris la patience, la frustration. Écoutez, vous allez voir nos jeunes pêcheurs quand ils sont confrontés à un gros poisson.
Un gros truc, ça.
Ah, il s'est détaché.
Oh,
t'as entendu le truc?
J'ai plus mon hameçon.
Il a décroché.
Comment il l'a fait?
C'était, je pense, un brochet.
Non, comme une boîte.
Non, alors une perche.
Une petite perche, oui.
Une petite perche, elle a dû couper hein, avec ses dents.
Ah, c'est pas grave, ce sera le prochain coup, mon poulet. Quand on a des gros poissons comme ça, faut plus essayer de les fatiguer et après de leur sortir gentiment de l'eau. Ils ont assez de puissance hein, pour nous casser les fils. Hein.
Regardez.
Un héron, ouais. Lui, hop là, il est comme nous, il vient pêcher.
Ouais, c'est génial, il parle pas de YouTube, c'est incroyable.
Ah non, c'est clair, c'était calme et tout. On entendait un peu les voitures au loin, mais bon, ça disparaît. C'est aussi ça la pêche, on apprend finalement à découvrir la nature, que certaines espèces disparaissent au profit d'autres qui sont devenues invasives, telles qu'on a eu des écrevisses de Louisiane, ils les ont ramassées. Je vous propose d'écouter encore Stanislas.
Ils ont vu qu'il y avait des oiseaux au bord de la Seine, ils ont vu qu'il y avait des insectes, on a vu plusieurs espèces de poissons qui étaient en train de circuler dans la Seine. Et ils apprennent toutes ces choses-là. La pêche, c'est un bon levier justement pour aller apprendre toute la biodiversité qu'on peut avoir dans la Seine. La Seine, c'est pas que des pigeons, des rats, c'est pas que des déchets non plus. Et ces jeunes pêcheurs-là, ils le savent. Ils connaissent un petit peu les oiseaux piscivores également qu'on peut avoir, ils connaissent les insectes. Aujourd'hui, on a quasiment une quarantaine d'espèces de poissons en Seine. Donc il y a quoi s'amuser. Il y a vraiment de quoi s'amuser.
Donc si je comprends bien, Cécile, attraper des poissons, finalement, c'est accessoire.
Oui, c'est vrai que le fait d'être dans la nature, quand je l'ai demandé aux enfants, d'ailleurs, c'est ça qui est central, c'est ça qui est revenu à chaque fois. Mais bon, la joie quand même qu'éprouvent ces enfants, avec leur perche et leur gardon du jour, elle est quand même éclatante. Hein.
C'est moi qui ai pêché.
C'est bien, bravo.
Elle est belle, hein.
Tiens, tu vas la relâcher?
C'est la deuxième perche de ma vie, quoi.
C'est un beau gardon, hein.
Ah ouais.
Ah ouais, un gardon. Un gardon.
Content, en
vrai. Bah, faut être content quand tu pêches un truc.
J'ai vu un truc qui arrêtait pas de bouger. Et donc j'ai mouliné, et après j'ai dit poisson, et j'ai trouvé, voilà.
Ah, c'était super pour moi, c'était un moment de joie.
Voilà, tout le monde peut se mettre à la pêche, il faut juste prendre une carte de pêche, il existe plusieurs formules, et au maximum c'est 100 euros l'année. Donc,
ça vaut le coup, merci beaucoup Cécile pour ce reportage, et la mise en lumière de cette activité qui plaira, j'en suis certaine, aux amateurs de nature. Bon, j'espère que vous qui nous écoutez, vous avez passé une heure agréable et sympathique en notre compagnie. Nous serons de retour demain dès 11h. Quel sera notre sujet du jour, Mélanie?
Alors c'est l'été, on y est. La saison officielle du maillot de bain est lancée avec son lot de complexes pour certains et certaines. Mais pas d'inquiétude, nous avons des solutions à vous proposer pour sublimer votre silhouette. Je vois Romain Desarbres très intéressé. Cryolipolyse, radio, fréquence, massage et laser. Les techniques esthétiques pour avoir un physique qui vous convient sans bistouri sont de plus en plus nombreuses. Romain, ne vous inquiétez pas, on fera le point dans Bienfait pour vous.
Et oui, mais à présent c'est place à l'info sur Europe 1, car à suivre c'est Europe Midi. Avec vous justement Romain Desarbres, quel est le programme?
Europe Midi spécial pouvoir d'achat aujourd'hui. J'ai envie de vous entendre sur vos propositions.
propositions en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Le projet de loi pouvoir d'achat va être présenté cet après-midi en Conseil des ministres. Vous avez la parole sur les thématiques des prix des carburants, les salaires, toutes vos solutions. Hein. C'est Europe Midi, spécial pouvoir d'achat. Vous appelez le 3921. Vous passez à l'antenne. On sera également avec Bastien Lachaud, député NUPES, et avec Sylvain Maillard, député Renaissance. On va débattre, comme tous les jours.
Eh bien, merci beaucoup, Romain. À tout de suite.
À tout de suite.